A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Le Maroc est encore dans nos cartons en sol majeur, puisqu'en revenant du festival Europe-Orient du film documentaire de Tanger, dont la cinquième édition se déroulait jusqu'au 23 septembre, on a pu ramener les bobines de film du réalisateur-producteur Ayed Nabaa. Pourquoi lui ? C'est vrai, au milieu de tous ces réalisateurs jordaniens, irakiens, libanais, espagnols ou allemands à l'affiche de ce festival qui joue la carte de l'Europe et de l'Orient, pourquoi ce réalisateur franco-jordano-palestinien ? Eh bien, je dirais que sa présence au monde cinématographique n'est pas anodine. D'ailleurs, au milieu des masterclass et autres conférences, le festival lui a confié un atelier du scénario pour les jeunes réalisateurs de Tanger à Silla. On en parlera. Conversation enregistrée il y a quelques semaines dans cette ville de rêve qu'est Tanger. Bonjour Ayed Nabaa.
Bonjour.
On est dans un lieu fait, idéal. Ouais. On est où là ?
En fait, on est dans une salle de cinéma. On est à la centre-ville de Tanger, les vieilles villes de Tanger. Et Cinéma Rif, il est au milieu de ce lieu-là. Quand tu arrives à la centre-ville, tu le trouves en face de toi. Et tu ne peux pas résister en fait. Tu voulais rentrer parce qu'il y a un café à l'entrée. Il y a des gens qui sont en train de discuter, fumer des clopes, boire des cafés, des thés à menthe, etc. Et c'est une scène, c'est la vie quotidienne. C'est ça le cinéma en fait. Le cinéma, c'est un parti de la vie quotidienne. Je me rappelle tout de suite quand je rentre dans une salle de cinéma, je me rappelle quand j'étais petit.
Où ça ?
C'était en Jordanie en fait. On rentre dans les salles de cinéma et il y a toujours du sentiment spécial. Il y a l'odeur de les chaises. En fait, dans notre cinéma, dans les salles de cinéma arabes, ils ont gardé les vieux cinémas. Pas comme Europe, tu rentres. Tout est neuf, tout est... Ici, il y a des traces de quelqu'un qui est passé par là, etc.
Oui, on comme remercie ça. Cette cinémathèque de Tanger qui nous accueille adorablement. On aura peut-être même droit à un petit bout de projection d'un hommage qui est rendu en ce moment à Jeanne Moreau. Donc on en reparlera. C'est une cinémathèque qui travaille sur la valorisation d'un fond du monde arabe, c'est important, et qui privilégie le cinéma d'auteur, ce qui doit vous toucher, vous. On est très heureux de vous rencontrer en sol majeur, Ayed Nabaa, dans ce festival où vous avez été primé l'an dernier pour votre film Sunburn. Mais avant d'en parler, comme ça, un sentiment, le premier qui vous vienne en arrivant dans ce festival Europe-Orient.
En fait, ce festival il est assez important pour moi parce que ça, c'est mon deuxième fois. Et je viens cette année avec un projet d'atelier de cinéma, de scénario. En fait, Tanger, c'est une ville spéciale pour moi. Et le festival, il m'a permis de rencontrer les gens. Surtout pour moi parce que c'est tous les Maroc, les Maghreb, c'est un beau loin. Et c'est une opportunité de rencontrer ce monde-là. C'est une découverte pour moi, en fait.
B comme brûleur de frontières.
En fait, brûler les frontières, c'est un terme que j'aime bien. Parce que moi, je voulais casser les frontières, si tu veux, quand j'étais gamin. Et en fait, dans le Sunbird, dans les films de Sunbird, c'est Utopia. Il y a des artistes qui ont créé un timbre avec État palestinien. Et ça, c'est une idée qui n'existe pas, en fait. Et quand je trouvais les artistes, surtout l'artiste palestinien Khaled Jarrar, qu'il a eu un tampon avec State of Palestine.
À l'effigie de cet oiseau.
Avec exact, cet oiseau, avec Sunbird. Les oiseaux, oui, on va parler sur les oiseaux de Sunbird, parce que le Sunbird, c'est un symbole très important. C'est
En Palestine.
C'est un oiseau qui était bien marqué dans le dictionnaire des animaux anciens. Et après, l'idée de cet artiste-là, c'était... Il a créé le timbre. Il est allé partout à Ramallah, tamponner les passeports de l'étranger, des Français, de l'Allemand, de tout le monde, en fait. Il y a des gens qui acceptent de tamponner leur passeport avec State of Palestine. Tu prends les risques, en fait, parce que cette pays, ça n'existe pas. Après, c'est ton passeport. Peut-être que tu vas avoir des problèmes à la frontière quand tu sors de la Palestine, parce qu'il n'y a pas de visa. Et lui, il a donné les visas, en fait. En fait, il est allé en Allemagne, il a présenté son projet. Il était accepté par les postes, parce qu'en fait, vous avez cette option en Allemagne. Tu peux personnaliser ton timbre. Il est arrivé à imprimer 30 000 timbres. Il était diffusé partout.
Faut dire un petit mot quand même de ce Khaled Jalal, parce que c'est un personnage incroyable. Il est à la fois artiste, militaire.
Oui, c'est vrai.
Et il a même été ancien garde du corps de Yasser Arafat.
C'est vrai, il était blessé en plus. Et à la deuxième intifada, entre 2002, il a eu un bal dans sa jambe. Après, il voulait faire des choses comme ça. Il est allé à la...
Alternative,
à la... Exact,
pour alerter l'opinion internationale sur
c'est
le
ça.
Sort de la Palestine. Mais il a l'air de dire que pour lui, lui qui est un ancien militaire, l'art est plus puissant que l'armée.
C'est vrai. Avec l'art, on peut dire plein de choses, parce que... L'armée, tu restes derrière les frontières, en fait. C'est l'armée à la frontière, maximum à la frontière. Mais l'art, c'est un passeport. Et l'art, il voyage comme les oiseaux, en fait, toujours.
Et là, il y a une démarche artistique qui est très forte. Mais effectivement, ça interroge, puisqu'il s'adresse à des étrangers avec ce timbre. Et il essaye de convaincre certains d'entre eux de tamponner ce fameux timbre dans les passeports. Alors, risques et périls, comme vous le disiez, Ayad Nabaha. Comme en atteste l'histoire de cette activiste humaniste incroyable. Elle s'appelle Alison Rahmer. C'est une juive américaine qui décide d'aller vivre un jour à Ramallah pour mieux comprendre ce conflit du Moyen-Orient. Et sur son passeport israélien, elle accepte de se faire tamponner le fameux Sunbird.
Well, as soon as Khaled invited me to stamp my passport, I was very excited.
Lorsque Khaled m'a invité à tamponner mon passeport, j'étais très excitée. À l'époque, aucun Américain ou Israélien n'avait jamais fait tamponner son passeport. Mais le pire problème auquel j'ai dû faire face m'est arrivé lorsque j'étais à l'aéroport de retour des États-Unis vers la Palestine. Le responsable m'a demandé « Qu'est-ce que c'est que ça dans ton passeport ?» Et j'ai répondu « C'est un tampon de la Palestine. C'est un visa palestinien. » Il m'a dit « La Palestine n'existe pas. Il n'y a pas d'endroit tel que la Palestine. » Je lui ai répondu « Comment ça ? Vous ne savez pas que la Palestine était un État avant qu'Israël n'existe ? » Et là, il m'a emmené pour m'interroger, ce qui a duré plusieurs heures. Et en définitive, ils ont annulé mon passeport.
Extrait en sol majeur de votre doc Sunbird, qu'on redécouvre en sol majeur dans la Cinémathèque de Tanger avec vous, Ayad Nabaha. C'est une leçon que d'entendre cette activiste humaniste juive américaine Alison Rahmer. Et puis c'est une leçon de voir que vous posez votre caméra et votre point de vue de réalisateur palestinien de naissance sur un angle du conflit inattendu.
Moi j'ai tourné beaucoup avec des Israéliens en fait. Qu'ils ont un point de vue aussi sur la Palestine. Comme Alison. Alison est juif bien sûr, mais l'israélienne aussi. Et il a pris le risque. Il a tamponné son passeport américain. Après, 2 mois après, il est allé voir Khaled. Il voulait tamponner les passeports israéliens. Et ça, c'est assez important parce que un tampon State of Palestine sur un passeport israélien, c'est...
On risque quoi ?
Je ne sais pas. Ça dépend à la réaction de l'État israélien. Parce qu'ils sont durs avec ce sujet-là. C'est très sensible. Parce que pour eux, cette terre-là, entre les Méditerranées et entre le Jordan... Jordan River, c'est Israël.
Votre Sunbird, en fait, c'est un pigeon voyageur.
C'est ça. Il voyage partout.
Est-ce que vous parlez japonais, Ayad Nabaha ?
Moi, je ne parle pas japonais, mais...
Il a bien fallu, pourtant, lorsque vous avez suivi ce grand photographe, Ruichi Hirokawa, qui a eu cette phrase, il a dit « Les Palestiniens ont fait de moi un photojournaliste ».
En fait, pourquoi on a choisi Ruichi Hirokawa ? Parce que Ruichi Hirokawa, il a fait un voyage énorme dans l'année 67. Il était très jeune, il voulait aller en Israël. Il ne connaît pas la Palestine. Il a aimé l'idée d'être en Israël dans un kibbutz. En arrivant à la kibbutz, il est allé balader autour de la kibbutz, près de Nazareth. En fait, il a vu des pierres partout. Il a demandé à ses amis, à la kipoutz, c'est quoi ces pierres partout? Il n'a pas eu une réponse. En fait, quelques mois après, il y a les guerres qui tombaient, 67. Après, il a rencontré un groupe qui s'appelle Metzpain, un groupe israélien contre l'occupation. Ils ont dit, ça c'est un village qui a été détruit à la guerre de 48. Il a eu un choc.
Il a découvert aussi dans la terre des cadavres.
Et bien sûr. Et c'était le turning point dans sa vie. Tout de suite, il a changé les discours tout de suite. Il a quitté les kibbutz, il a pris sa caméra, il a décidé de photographier tous les villages palestiniens qui étaient détruits à 48. Il a publié ses photos dans un livre énorme qui s'appelle Nakba. Nakba, les
la catastrophe. Et donc vous avez décidé, vous, de le suivre, Ayad Naba, dans les territoires occupés, donc dans ce doc somptueux intitulé Hirokawa. Alors avec juste un petit souci technique, hein, pour nous, enfin pour moi, il parle en japonais et c'est sous-titré en arabe.
Ici, je suis venu en 1967, de la guerre.
Hirokawa, il raconte ici son premier vision pour le futur. Parce qu'il vient du Japon, après la guerre, c'était après la guerre. Il a eu mal de rester là-bas. Enfin, il voulait aller dans une société idéale. C'est pour ça qu'il a choisi les kibbutz. Et les vérités, elles étaient cachées sous les pierres, en fait, autour de la kibbutz. Mais en fait, son projet, il n'est pas arrêté ici. Après la guerre au Liban, comme les Israéliens rentraient à Liban l'année 82, lui, il est allé tout de suite. À septembre 82, il était près de Sabra au Chatila. Ils ont fait les massacres de Sabra au Chatila. Tous les phalangistes, avec l'aide d'Israël, etc. Et le camp réfugié, il était fermé. Et lui, il est allé derrière les camps. Il a essayé plusieurs fois de rentrer. Et en fait, à la fin, il a réussi. Il a rentré. Il a photographié tous les morts, tous les cadavres. Il était le premier photographe qui a rentré à la camp réfugié de Sabra au Chatila.
Mais qu'est-ce que vous découvrez alors, vous, de votre Palestine à travers son regard à lui de photographe japonais?
En fait, l'intérêt, c'est casser les frontières. Ça m'intéresse aussi qu'est-ce qui passe à Vietnam aussi, qu'est-ce qui passe à Colombie, qu'est-ce qui passe à partout dans le monde. C'est un monde à moi. Il faut arrêter de cette idée-là, on vit dans les mondes. Non, c'est le contraire. C'est les mondes qui vivent à nous, à l'intérieur, en fait.
Vous avez de multiples mondes en
vous.
Bien
sûr.
En tout cas, effectivement, ça ouvre les fenêtres et on peut préciser que ce grand photographe milite, évidemment, pour la Palestine, mais il enseigne également l'histoire de la Nakba, donc de la catastrophe, au Japon. Une petite question brûlante ici, dans les 25 degrés de Tanger. Est-ce que vous avez vu le film « Fenêtre sur cour » d'Hitchcock? Vous avez le droit de dire non, hein, Ayed.
Je ne me rappelle plus parce que moi, je regardais tous les films de Hitchcock.
Où est cette wonderful music coming from?
Some songwriter over there in the studio apartment. Well, he lives alone. Probably had a very unhappy marriage.
Oh, it's enchanting. It's almost as if it were being written especially for us.
No wonder he's having so much trouble with it.
F.
At least you can't say the dinner isn't right.
Lisa, it's perfect.
F comme fenêtre sur cour.
As always.
Est-ce que l'école de cinéma de Jordanie que vous avez faite à Ayad Naba, on avait Hitchcock comme, comme sujet d'étude?
Oui, on a. Dans l'école de cinéma, on regarde plein de films, en fait. On a regardé Hitchcock. Et je me rappelle très bien, par exemple, Les oiseaux de Hitchcock. Et je me rappelle les premières scènes, comme Alfred Hitchcock, il sort de le magasin.
Oui, la silhouette fois, d'Hitchcock
oui,
fait partie de ses films, en
oui,
général.
Oui, c'est vrai. Toujours, il est à une touche spéciale.
Petit clin d'œil.
Lui, il sort de le magasin des oiseaux. Mm. Et tu le vois très bien, comment il marche, etc. Mais c'est un révélateur assez important.
Alors c'est pour dire un mot de cet atelier du scénario pour les jeunes réalisateurs de Tanger que vous avez organisé. Question de n'importe quel festivalier, c'est quoi un bon scénario pour vous ?
Un bon scénario, c'est un scénario qui écrit par les images. Un scénario qui écrit par les textes, ça ne m'intéresse pas. C'est les scénarios qui écrit par les images et qu'il ait des dialogues, bien sûr. Et après, à l'intérieur, il faut avoir les structures dramatiques.
Et c'est un scénario qui raconte une histoire.
C'est ça.
Oui. Et alors, comment on raconte une histoire, en fait ?
En fait, moi, qu'est-ce que j'ai enseigné ici ? C'est raconter l'histoire. Comment on peut raconter l'histoire ? Parce qu'il y a plusieurs façons de les raconter l'histoire.
Un exemple ?
Un exemple, il faut avoir confiance à ton histoire. Parce que chacun, il a une histoire dans cette vie-là. Toi et moi, tout le monde, chacun, il a une histoire. Et c'est pour ça qu'on est spécial. L'humain, parce que chacun il a une histoire. Pour raconter cette histoire-là, il faut avoir de confiance à ton histoire, et après il faut le raconter. Et moi, j'aime bien raconter l'histoire, et j'aime bien acheter les... Moi, j'ai dit ça, j'utilise les termes « acheter les histoires », parce que moi, je voyage souvent, j'y parle avec les gens, et j'ai dit « est-ce que vous avez une histoire à me donner ?» Et je peux acheter, par exemple. Vous pouvez accepter peut-être le dollar, l'euro... Je plaisante.
Mais chaque récit a de la valeur, en fait.
Bien sûr.
Ouais. Donc l'idéal, professeur, c'est une vraie histoire, ressentie, incarnée, on va dire, et un style. Et une caméra particulière, parce que par exemple, si on regarde Sunbird, ce fameux film dont on parlait tout à l'heure, il y a de temps en temps une très belle caméra plongeante, notamment dans les décombres, où se trouvent les archives palestiniennes.
Parce que les caméras, pour
l'image
moi...
L'image est aussi importante que le propos, on
sûr.
Est d'accord.
Moi, j'aime bien la caméra qui bouge. Parce que les perspectives, ils changent tout le temps quand tu bouges les caméras. Comme on a filmé dans l'archive palestinienne à Nazareth, on a commencé au-dessus de la terre, dans un lieu qui était préservé, en dessous de la terre. Quand j'ai vu les lieux, j'ai aimé. Enfin, j'ai fait un blanc, traveling. Parce qu'on parle de l'archive. Tout qu'est-ce que...
L'histoire ensevelie.
Exact, c'est ça.
On va mettre le festival du film documentaire Europe-Orient de Tanger un petit peu sur pause, parce que je sais qu'il y a des trucs un peu bizarres qui se passent du côté de Brigitte Fontaine et Areski. Mais peut-être que c'est normal en même temps.
C'est normal.
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz d'un appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûlé?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion.
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais alors...
La 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 la.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Qu'est-ce que tu voulais? La 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 la.
Moi, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers, et quelques improductifs.
Brigitte Fontaine et Areski qui flânent du côté de la Cinémathèque de Tanger avec en sol majeur, en bandoulière, et le réalisateur palestinien Ayed Nabah, qu'on rembobine dans 3 minutes.
A long way from home.
En sol majeur.
Il y Yalla, Nrojo, vous êtes malhaba ici dans cette parenthèse marocaine pour une petite piqûre de rappel du Festival Europe-Orient du film documentaire de Tanger qui se déroulait jusqu'au 23 septembre dernier. On a quasiment installé du miel et des poufs pour accueillir le très poivré Ayed Nabaa, réalisateur, producteur franco-jordano-palestinien, diplômé de cinéma à l'université d'Irbid en Jordanie. Et parler avec Ayed, c'est un petit peu faire le tour du monde, Mauritanie, Tunisie, Jordanie, Gaza, Oman, Bahreïn, Yémen, oui je veux dire du monde arabe.
C'est comme casting.
Bon là, je vais parler au fiston devenu réalisateur, producteur. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire du casting, entre guillemets, familial? Où sont nés vos grands-parents et vos parents, Ayed?
En fait, mes grands-parents, ils étaient nés en Palestine. Même mes parents.
Mais 48, qui est une date importante, on y reviendra puisque vous avez travaillé autour de cette date dans un documentaire. Est-ce que ça a frappé d'une manière ou d'une autre vos grands-parents? La création 48, de l'État d'Israël, donc.
Pas directement, aussi, mais parce que nous, on vient d'un village qui est frontière avec tous les quartiers 48 avec Israël.
On appelle ça les quartiers 48?
Ouais, pas les quartiers, c'est les régions 48. C'est marrant parce que les frontières, elles s'appellent The Green Line.
La ligne verte.
Oui, la ligne verte. Parce qu'ils ont planté, après la guerre, ils ont planté des arbres. C'était écrit partout, les Green Line, et bien au moins, c'était ceasefire, cessez-le-feu. C'était comme ça, parce que...
Donc votre cartographie, vous l'identifiez comme ça par ces noms-là. Il y a les régions 48, les régions cessez-le-feu. Plus de noms.
Non,
de
ça c'est les lignes entre le Cisjordanie et entre les 48, cessez-le-feu.
Et alors 67?
67, c'est très important pour nous. Parce que
la guerre des six jours. Hein.
La famille de mon papa, ils ont resté. Mais le côté de maman, tous les villages étaient partis. Les soldats, ils ont rentré dans les villages, ils ont terrifié les gens. C'est pour ça que tout le monde est parti. Sauf mon oncle, il s'est caché. 3 jours après, il a sorti, il a trouvé personne. Tous les soldats, ils sont partis. Il a trouvé tous les villages qui étaient installés près de la frontière. Il a commencé à dépêcher les gens de rentrer à la village. Et les gens, ils avaient peur. Et lui, il a insisté, il a dit, il n'y a rien qui passe dans les villages. Enfin, c'est pour ça, grâce à mon oncle, tout le monde est rentré chez eux.
La première intifada démarre en décembre 87, et vous, Ayed, vous avez 6 ans. Vous y participez à cette intifada?
Oui, bien sûr, tout le monde y participait, mais on n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. En fait, tout l'été, on rentrait en Palestine tout l'été, pour les vacances. Moi, j'ai aimé aller en Palestine parce que c'est les paysages, c'est assez sauvage. Et même à la frontière de notre village, on peut voir la mer en fait, on peut voir la Méditerranée. Mais on ne peut pas aller. En arrivant en 88, on arrivait, c'était le bordel. Il y a des soldats partout, la route était fermée, on ne peut pas aller plus loin. J'ai parti tout de suite avec mes cousins, avec mon frère. J'ai vu mes cousins qui jetaient des pierres sur les soldats, on a commencé de jeter les pierres.
Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous criez comme slogan?
On a crié « Falastine hurra, Falastine hurra, Falastine hurra ».
Jamais à la Wakbar?
Non, ça c'est arrivé après en fait. Où nous, on est dans un village un peu laïque. Mais c'est ça, les Palestines, c'est un pays laïque. La religion, elle n'est pas très présente là-bas. En fait, crier « Allahu Akbar », c'était rare. Mais surtout, c'était « Falastine hurra ». Palestine est libre.
Alors, il y a un passeport musical signé Rodolphe Burger qui vous attend, Ayed Nabaa. C'est moins dangereux, vous allez voir. Vous aimez bien son rock, qu'on peut qualifier de rock littéraire?
Oui, mais lui, il est un chanteur spécial pour moi. Rodolphe Burger, en fait, je le rencontrais dans une petite ville à la Bretagne qui s'appelle Morlaix. Il a joué à côté de moi et après le concert, on est allé parler ensemble. Il m'a dit « Tu viens d'où ?» Je dis de Palestine. Il m'a dit, oh, c'est bien, parce que moi, j'ai fait un projet avec sur Mahmoud Darwish. J'ai utilisé les textes de Mahmoud Darwish dans ma chanson. Et je le trouvais formidable. Comment il joue, comment il bouge, c'est quelqu'un qui a de l'énergie.
On va l'écouter donc dans Samuel Hall, enregistré par nos amis de la Radio Suisse Romande, pendant qu'on sirote toujours notre amour du cinéma dans cette cinémathèque de Tanger.
Je suis parti à 15h30, j'étais fatigué, j'avais mal. Je suis fatigué, c'est tout, dit-elle. Acheter une livre et demie de viande, haricots en boîte plus chips. Quel besoin avais-tu d'acheter tout ça, dit-elle. Continue comme ça, dit-elle. Continue comme ça. Allez au diable, je m'appelle Samuel Hall. Allez au diable, je m'appelle Samuel Hall. Je vous déteste tous. Allez au diable, je m'appelle Samuel Hall. Je vous déteste tout.
En sol majeur, en plein Tanger, on vient de passer le deuxième checkpoint musical au bras du réalisateur Ayed Naba, qui a posé sa caméra à Boudrous, c'est en Cisjordanie, où un mur de séparation a fait son entrée en 2002. On a d'un côté les bulldozers israéliens et de l'autre un comité populaire de villageois palestiniens, au milieu desquels se mêle un activiste israélien décidé lui aussi à stopper le mur de l'apartheid. Against the Wall, extrait.
Je viens ici parce que je considère qu'Israël ne devrait pas construire cette chose, le mur. Et je pense qu'il devrait encore moins le construire sur les terres des habitants. La séparation n'est pas la solution.
And that's why I come here.
C'est pour cela que je viens.
I was here in 2004.
J'étais là en 2004,
right after Boudrous,
pour la première manifestation, juste après celle de Boudrous.
The wall is used, of course, to grab
le mur leur permet d'étendre leur colonie, mais également de se retirer de manière unilatérale de la frontière.
Israel wants to unilaterally decide where a
S'ils veulent décider de l'emplacement d'une future frontière de manière unilatérale,
Israeli control over Palestinians.
Cela renforcera leur contrôle and sur les Palestiniens et sur la bande.
F comme faire le mur.
Ayed Naba, est-ce que vous pourriez nous donner l'image de cet extrait de Against the Wall qu'on vient d'entendre en sol majeur?
En fait, pourquoi ce film-là? Parce que ça parle de les villages qu'ils ont isolés un peu à la frontière entre les 48, entre Israël et entre les Cisjordanie. Et ces gens-là, de ces villages-là, ils ont estimé qu'il faut résister. Ils sortent chaque vendredi pour
stopper
pour
les bulldozers. Stopper
les bulldozers, etc. En fait, on était en train de filmer près de la mur avec un Israélien qui participait pas mal avec les manifestations contre la mur. Et il y a beaucoup d'Israéliens, en fait, qui sont contre le mur aussi. Mais ce Jonathan, il s'appelle Jonathan, c'est un Israélien assez spécial parce qu'il reste toujours dans les villages de Palestiniens. C'est un anarchiste qui vive entre les Palestiniens. On était en train de filmer avec lui dans un village près de Ramallah qui s'appelle Neilin. Et de loin, on voit un jeep israélien qui arrive derrière la mur, de l'autre côté. Parce qu'il y a une porte énorme, qui est toujours fermée. Tout de suite, je me rappelle cet mot parce que quand j'étais gamin, Lecha Abaita, en hébreu, ça veut dire go home, rentre chez toi. Mais on est chez nous quand même, on est chez Mohamed, un Palestinien. Et de loin, avec leur jumelle, ils ont bien vu qu'était Jonathan, l'Israélien, encore avec les Palestiniens qui sont en train de tourner un film. Ils ont rentré Ils ont pris Jonathan pour quelques secondes après la sortie.
Est-ce que vous prenez des risques pour faire ce genre de documentaire? Parce qu'on vous voit effectivement au milieu des bulldozers, au milieu des jeeps de militaires israéliens, ça peut tourner mal.
Ouais, les premières fois j'étais blessé, les premières fois, mais avec les gaz lacrymogènes, avec moi et les cadreurs, parce qu'on est... On n'est pas l'habitude de cette manifestation. Tous les Palestiniens, ils sont malins. Ils bougent toujours contre le vent. Parce que les gaz, il est assez fort. Et moi, j'ai rien compris. Je rentrais avec mon cadreur pour prendre des plans. Et on a eu le gaz tout de suite et on tombait par terre. Enfin, il y a un risque, bien sûr, il y a un risque. Mais on est au milieu des Palestiniens. Les risques, c'est pour tout le monde. C'est pas que à moi.
Est-ce que vous avez réussi à avoir le son de cloche des autorités israéliennes sur ce mur?
En fait, non.
Vous avez contacté.
Si, on a contacté Blizzard responsable. Ils ont refusé. Les films, il est diffusé en Israël. Et avec un extrait, toujours, quelqu'un qui parle en hébreu pour expliquer qu'est-ce qui se passe, etc. Ils ont pris les films. Il était diffusé partout en Israël. En fait, le mot est passé.
Alors, cette question du Moyen-Orient, elle revient évidemment très souvent dans votre travail avec un soin journalistique méticuleux et. Notamment en 2015, une commande, je crois, d'Al Jazeera, vous avez réalisé l'excellent « I was born in 48 »,« Je suis née en 48 ». C'est le portrait de 5 femmes, 3 palestiniennes et 2 israéliennes, chacune étant née en 48.
אני חושבת, הרבה פעמים אני חושבת על השאלה הזו, אני לעצמי. אני תמיד אני אומרת, אני חושבת שאני ברת מזל. משום ש... קום המדינה ב-1947...
Je pense beaucoup à la chance que j'ai eue d'être née 6 mois après la création d'Israël.
בחצי שנה, בכמה חודשים אחר כך. ואני אומרת, אני חושבת שיש לי איזה אנרגיה טובה.
J'ai un bon pressentiment, je crois en l'énergie positive. Je crois en la réincarnation.
שמר אותי שכשתהיה לנו מדינה, כאילו, אני אבלד.
Je crois que Dieu a attendu que nous ayons notre état pour m'autoriser à naître. Quand je réfléchis à mon histoire, je pense aussi à tout ce qui est arrivé à mon pays. Je n'ai jamais distingué cela de ma propre vie. Ce pays s'est développé tout comme moi, malgré mes difficultés personnelles et familiales. Je suis Madeleine de 1948, née en 1948, tout comme on dit Israël de 1948, créé en 1948.
خرجنا من يافا سنة 1948 بعد العدوان الهجمة الشرسة على فلسطين.
Nous avons quitté Jaffa en 1948 après l'attaque dévastatrice d'Israël contre la Palestine. Je suis née à Gaza le 8 octobre 1948. Mon enfance a été très rude. J'étais une réfugiée. Nous étions pauvres, nous avions faim. Nous vivions dans une tente.
الحلم الخيمة اللي اليوم احنا بحلم فيها الجيش الصهيوني اجى في المنطقة اول ما اجوا كنت انا بلعب بالشارع
lorsque l'armée israélienne est arrivée je jouais dans la rue
اول شيء عمل الجندي
un soldat israélien m'a frappé par derrière et m'a jeté au sol cela m'a profondément marqué
اثرت على الذاكرة وعلى نفسيتي
il a commencé à représenter l'ennemi à mes yeux
من الاهل كانوا يحدثوني عن جرائمهم ويعني انتهاكاتهم للشعب الفلسطيني.
Ma famille parlait des crimes et des excès commis par les Israéliens vers les Palestiniens. Ils m'ont décrit comment les Israéliens assiégeaient la ville tout entière. Ils ont forcé tout le monde à partir. Ils nous ont déracinés de notre terre natale.
Et oui, parler du Moyen-Orient ici dans cette cinémathèque de Tanger avec vous, Ayad Nabas, c'est un peu spécial. Hein. Il faut dire que ces images de ce documentaire sont très parlantes. On a par exemple d'un côté une femme qui est installée dans son salon cosy de Jérusalem et puis de l'autre une femme qui est à Gaza et qui déambule dans un champ de ruines. Qu'est-ce que vous avez découvert vous en écoutant ces femmes pour I was born in 48?
En fait, Qu'est-ce que ça veut dire, le Nakba ?
La catastrophe.
Les catastrophes. Les Palestiniens, qui étaient nés à 48, ils sont pas bien. Parce que l'ère universelle, c'est un peu délicat, c'est un peu sensible. Ça, les catastrophes, c'est... Et l'autre, l'Israélienne, ils étaient fiers de leur naissance, parce que c'est les naissances de l'État aussi, de l'État israélien. On n'a pas comparé, en fait, leur vie, mais on a suivi un peu la vie de chaque femme. La dame qui est à Jérusalem, il m'a dit devant la caméra, c'était une maison de Palestiniens qui vivaient ici. Nous, après la guerre de 48, ils sont partis, nous on a pris la maison. Et l'autre dame qui vit à Gaza, il n'a jamais vu sa ville quand même. Il n'est jamais rentré à Jaffa, il est resté toute sa vie à Gaza, dans un camp réfugié. En fait, c'est ça l'idée du film, en fait, de voir la vie de chaque femme dans ce film.
C'est pas anodin de raconter 48 à travers des femmes.
Si, on peut raconter l'histoire de 48. Parce que l'histoire de
48... Parce que la femme, c'est la maison.
Bien sûr, la femme, elle raconte son histoire de la 48, c'est le petit histoire de cette femme-là. C'est un parti de la grande histoire de la 48.
On peut peut-être quand même donner un chiffre. 720 000 Arabes de Palestine sur le 1 200 000 qui peuplaient la Palestine ont fui ou ont été chassés de leur terre en 48, sans parler des 300 000 chassés au moment de la guerre des six jours. Vous, Ayed Nabaa, vous êtes l'un des descendants de ces réfugiés palestiniens. Est-ce que vous espérez le retour ? Que l'État hébreu refuse absolument.
Moi, je ne suis pas un réfugié. On a resté là-bas, grâce à mon père, elle a resté. Tous les Palestiniens qui sont autour de moi, dans les camps réfugiés en Jordanie, dans les camps réfugiés à Liban, en Syrie, comme je visite les camps réfugiés, ils n'ont pas le droit de rentrer chez eux, bien sûr. Moi, j'ai le droit. C'est à cause d'un morceau de papier, mais les autres, là, qui sont partis à 48 et à la guerre de 67. Moi, l'État israélien, c'est un État... On ne peut pas imaginer une discussion sérieuse avec eux. Parce que c'est un État militaire. C'est un État qui refuse de négocier.
Oui. On peut dire aussi que c'est un État islamiste du côté palestinien.
Hamas, c'est un parti politique de la Palestine. Ça présente pas tous les Palestiniens, bien sûr.
Ils sont aux manettes.
Hamas, mais ce n'est pas un État islamique, Hamas. Hamas, ce n'est pas Daesh. Hamas, c'est un parti de le frère musulman. Ça, c'est autre chose. Moi, je ne trouve pas des raisons. Bon, Hamas, ce n'est pas mon histoire. Mais on parle de l'État islamique. Et c'est quoi les Israéliens ? C'est État de quoi ? C'est État d'extrême aussi. Ils voulaient faire un État juif. Et ça, c'est une question de religion. Nous, en Palestine, on n'a jamais parlé de religion. Même l'histoire de Jérusalem, ce n'était jamais une histoire de religion. C'était une histoire de terre. Mais récemment, avec tous les politiciens israéliens, etc., ça a devenu une histoire de religion. Ah, c'est entre le musulman et le juif. Non, ça c'est une histoire de terre.
Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous ?
Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous ?
C'est pour dire... Vous en êtes où, vous, avec la culture française, mais même les traditions, les comptines françaises, puisque vous êtes installé en France depuis un petit paquet d'années maintenant, à Ayed Nabaa.
Oui, c'est vrai, parce que, en fait, avec les cultures françaises, j'ai découvert beaucoup de choses, de chansons, de musique, des cinémas, des l'art en général, en fait. La France, oui, pour moi, c'est autre chose, bien sûr.
C'est quoi la France ?
La France
J'oserais même dire c'est quoi être français, vous savez, c'est un débat qui nous agace beaucoup, qui revient sans cesse
moi, je rentre pas là-dedans
sur la table.
Moi je rentre pas là-dedans parce que je suis français et autre chose aussi. Moi je sens mon liberté en France, si vous voulez. Comme j'ai envie d'être libre, je rentre en France.
Qui c'est qui vous a appris le français ?
Ma belle-mère. Parce qu'en fait, je suis marié avec une Française. Mon épouse, elle parle très bien anglais. Et après, ma belle-mère, elle a venu en Jordanie pour la naissance de ma fille. Elle a resté 3 mois avec nous à la maison. Et ma belle-mère, elle parle très bien anglais. Mais j'ai estimé dans ces 3 mois, il faut apprendre les français.
Alors, si on parle de culture française, il faut évidemment dire un petit mot du cinéma français qui a été important pour vous. Vous citiez Godard tout à l'heure. Je sais que vous avez un gros faible pour les cinéastes de la nouvelle vague, Ayad Nabara, et notamment pour Godard et son film Ici et ailleurs. C'est un film construit à partir d'une commande de l'OLP. C'était juste après le septembre noir de 1970 qui opposait l'armée jordanienne et l'OLP, qui était soupçonné, je crois, à l'époque de vouloir renverser le roi Hussein de Jordanie. Et Godard a écrit son film en 1974 sur la base d'images de 1970.
Dans les ruines de la ville de Karamé, une petite fille du Fatah récite un poème de Mahmoud Darwish. Je résisterai.
Écoute, tu devrais parler d'abord du décor et de l'acteur dans ce décor, c'est-à-dire du théâtre. Ce théâtre-là, d'où il vient ? Il vient de 89, de la Révolution française, et du plaisir qu'avaient les conventionnels de 89 à faire des grands gestes et à déclamer en public leurs revendications. Cette petite fille, là, fait du théâtre pour la Révolution palestinienne, évidemment. Elle est innocente, mais peut-être cette forme de théâtre l'est moins.
Ayad Nabara, pourquoi Godard évidemment, mais pourquoi ce film Ici et ailleurs en particulier?
Oui, bah parce que ici je suis dans cette histoire là, parce que je suis jordanien en plus et j'aime la Jordanie, etc. 70, c'est une période délicate. Il y avait la guerre entre tous les rebelles, tous les fidaïnes et l'armée jordanienne. En fait, Godard, il était au milieu. Godard, c'est quelqu'un de global, c'est un peu international. Il a eu des relations avec tous les partis de liberté dans le monde entier, pas qu'avec les Palestiniens, bien sûr. Il est venu, 70, il voulait faire un film qui s'appelle Révélation jusqu'à la victoire, parce que c'était un commande par Fatah, etc. En fait, avec toute cette période compliquée, politique, etc., il a stoppé son film, il est rentré en France. 4 ans après, il a reconstruit le film, en fait. Il a utilisé les images qu'il a déjà filmées, mais il a rajouté un parti français. C'est pour ça qu'il s'appelle « Ici et ailleurs ». Ici, c'est la France, et ailleurs, c'est la Palestine. Ici, c'était une famille française qui est en train de regarder la télévision, dans toutes les scènes. Ça veut dire qu'on est en train de consommer quelque chose, c'est la télévision. Et ailleurs, qu'est-ce qu'on voit ailleurs ? C'est tous les réfugiés palestiniens déplacés partout. Enfin, en fait, c'est pour ça. Un maître en scène qui prend l'avion, qui arrive et qui réalise un film sur la Palestine. C'est très important.
On se finirait avec un petit bout de toile comme ça dans cette cinémathèque de Tanger. Vous êtes partant, Ayad ? On ferme les yeux.
Je t'aime. Je ne te quitterai pas, Julien. Tu sais que je serai là. Avec toi.
Oh, je t'aime. Si je n'entendais pas ta voix, je serais perdue dans un pays de silence.
C'est pas très courageux.
Mais ce n'est pas courageux, l'amour.
Et toi ?
Du noir et blanc, le visage en gros plan de Jeanne Moreau et de Maurice René sur la musique mythique de Miles Davis. C'est l'hommage que rend la Cinémathèque de Tanger à Jeanne Moreau, récemment disparue. Ce film de Louis Malle, vous qui êtes très nouvelle vague, Ayad Nabara, comment vous le regardez, comment vous le ressentez?
Ouais, en fait, quand j'ai dit toujours l'histoire du cinéma, c'est le noir et blanc.
Quand tout sera fini, tu prendras ta grosse voiture.
C'est pour ça que ça m'engage tout de suite, le film, et même les images sur Barry, comme ça. On voyait Montmartre, on voit des acteurs très importants.
C'est une France d'hier, hein, quand même.
Bien sûr, c'est magnifique.
On peut dire que le cinéma français fait partie de votre famille, à vous qui ne vous sentez pas forcément proche du Maghreb en tant que Palestinien, quoi.
Oui, parce qu'on est loin du Maghreb, en fait. On est loin de l'Algérie, on est loin de Tunisie. Mais j'étais plus proche de la France. Et j'ai eu tout de suite des cadeaux. C'était des DVD de films français. Et après, je commençais même à construire une image bourbarie à travers le film. Et même, j'ai imaginé moi-même marcher, monter par là, grimper par là, manger dans cet restaurant.
Embrasser Jeanne Moreau ?
Oui. Elle était très belle, bien sûr.
Ouais. Ça vous parle, Jeanne Moreau ou...
Si, bien sûr. Jeanne Moreau, Brigitte Bardot, tout. Même Catherine Deneuve, c'est des actrices.
Ouais.
Très importantes dans l'histoire aussi du cinéma.
C'est qui la Catherine Deneuve du monde arabe?
Peut-être Catherine Deneuve dans les pays arabes, ce sera peut-être Sourad Hosni. Mais malheureusement, elle est morte assez jeune.
Bien.
Merci de cette rencontre en sol majeur ici à Tanger, à Yed Nabaa. RFI vous souhaite bon vent ici et ailleurs. En sol majeur, signé Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, avec Facebook, Twitter. C'est chaque samedi, chaque dimanche à 13h10, temps universel. On vous retrouve la semaine prochaine autour d'une rediffusion avec Élise Bogossian. À la semaine prochaine.